La science CQFD, Natacha Triou.
La Terre possède un champ magnétique, mais on en trouve aussi sur d'autres planètes, dans les étoiles et dans les galaxies. Quels sont les processus à l'origine de ces champs magnétiques ? Sans lui, la Terre aurait perdu son atmosphère et son bouclier protecteur contre les vents solaires et les rayons cosmiques. Nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, pourtant il est tout autour de nous. C'est seulement grâce à la boussole que l'on a fait sa découverte, bien après les oiseaux migrateurs qui l'utilisent aussi pour se déplacer. Mais pourquoi l'aiguille d'une boussole n'indique-t-elle pas exactement le nord géographique ? Au 19e siècle, les géophysiciens comprennent que l'origine de ce phénomène est au cœur de notre planète, à plus de 5000 km de profondeur. Origine du champ magnétique terrestre, en perdre la boussole. Miohara Mandéa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géophysicienne au Conseil national des astronomes et physiciens, le CNAP, désormais détaché au CNES. Et nous sommes en ligne avec Emmanuel Dormy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au département de mathématiques et applications à l'ENS. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr et aussi sur Twitter, sur X, pour notre live tweet qui commence tout de suite, si c'est sur notre fil @sciencecqfd. Alors pourquoi la planète Terre a-t-elle un champ magnétique et pourquoi fluctue-t-il ? Quels sont les outils qui nous permettent de l'étudier ? Comment remonter le temps et étudier le comportement passé de la géodynamo ? Et à l'inverse, peut-on prédire son évolution dans le futur ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, quelles sont les questions que soulève ce phénomène naturel ? La question est posée en 1956, c'est notre archive du jour.
Nous abordons l'étude d'un phénomène qui intéresse à la fois l'intérieur et l'extérieur de la Terre, son champ magnétique. Ce champ magnétique terrestre, qui pose aux physiciens tant de problèmes difficiles, se trouvait tout à fait familier grâce à l'une de ses applications connues de tous, la boussole. C'est lui qui, dirigeant la petite aiguille pivotante, nous offre en tout lieu et à tout moment une direction repère. Que nous soyons sous terre, dans la mer, dans les airs, sous bois, par ciel couvert ou par temps brumeux, le champ terrestre est toujours là, presque miraculeusement, prêt à nous rendre le nord. Mais ce nord que nous fournit la boussole n'est pas le vrai, celui des géographes, et il faut savoir l'interpréter. On sait bien en effet que le champ terrestre diffère considérablement d'une région à l'autre du globe et qu'il varie aussi d'un instant à l'autre et d'année en année. Ce sont ces variations dans l'espace et dans le temps qui intéressent les géophysiciens et nous cherchons à en pousser l'étude jusqu'à son extrême détail. Plus encore, peut-être, nous nous intéressons à leurs causes et à leurs relations nombreuses et étroites avec des phénomènes solaires et plusieurs autres phénomènes terrestres, par exemple les aurores polaires, pour citer une parenté qui peut surprendre. C'est tout cela qui peu à peu a constitué une science étendue, le géomagnétisme.
Voilà un extrait de l'émission L'heure de la culture française sur la RDF en 1956. Emmanuel Dormy, on entendait dans cette archive le champ magnétique terrestre pose aux physiciens tant de problèmes difficiles. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ?
Il en pose toujours. On a toujours des questions pour arriver à comprendre un phénomène qui pourtant est simple et qu'on a tous expérimenté, on a tous joué avec une boussole. Quand on dévie la boussole, elle est ramenée, elle réindique en permanence la même direction, qui est à peu de choses près le nord magnétique, au moins le nord local dans la pièce où vous êtes. Donc la physique de base est simple, on a l'impression que c'est des choses qui sont comprises depuis longtemps, mais pourquoi la Terre, cet objet si grand, produit un champ magnétique, si grand et si chaud en fait, c'est ça le problème principal. Ça c'est une question qui est toujours ouverte et sur laquelle on travaille toujours en recherche.
Miohara Mandéa, une réaction vous aussi à cette archive ?
Oui, c'est super intéressant de voir en 1956 que déjà on parle des variations spatiales et temporelles du champ magnétique. En fait, c'est une caractéristique de ce champ magnétique terrestre qui varie énormément dans le temps. On peut penser que ça commence avec la seconde, la minute, l'heure, la journée évidemment, et même à l'échelle séculaire et voire millénaire jusqu'à des inversions du champ magnétique. Et puis dans l'espace, parce qu'évidemment, le champ magnétique qu'on mesure ici en France, dans nos observatoires magnétiques, est différent de champs qu'on peut mesurer au milieu de l'océan ou en Amérique du Nord ou en Asie.
Avant de parler justement de ces variations, de ces inversions et de tous ces phénomènes-là, peut-être revenir aussi sur ces fondements historiques Miohara Mandea, parce que, voilà, comme je disais, on le voit pas, on le sent pas, c'est différent de la gravité, par exemple. À partir de quand on s'est aperçu que la Terre possédait un champ magnétique, historiquement?
Le géomagnétisme a une longue histoire et je pense que cette histoire, on peut la définir à l'échelle séculaire millénaire avec la première boussole qui a été inventée par les Chinois. C'est une boussole qui indiquait le sud et pas seulement le sud. À l'époque, c'était pour indiquer le chemin, mais peut-être le chemin dans la vie, pas le vrai chemin qu'une boussole nous indique aujourd'hui. Mais on doit venir en 1269, quand en français, Petrus Peregrinus, de son nom latin, comme on parlait à l'époque, a écrit l'Epistola de Magnete. Et c'est ici qu'il met les premières notions sur le magnétisme terrestre. Après, je vais voyager avec vous très vite, et on arrive en 1602. Et là, c'est super, parce que j'ai découvert à la Bibliothèque Saint-Geneviève un livre publié par Nautonier, avec Les privilèges du roi. Et dans ce livre, on voit la carte du globe de l'époque et c'était écrit équateur magnétique et pôle magnétique. Donc déjà à cette époque-là, on avait cette notion-là qu'il y a quelque chose qui est différent de notre repère géographique. Donc pôle géographique, pôle magnétique, équateur géographique, équateur magnétique. Et puis ça continue avec toujours cette interrogation, mais oui, il est là, ce champ magnétique autour de nous, partout. On ne le voit pas, on a la boussole pour nous le montrer, mais pourquoi il varie, pourquoi il est là? Voilà, des questions.
Emmanuel Dormy?
Alors... Oui, c'est une question intéressante. On ne sait pas évidemment quel est vraiment le premier être humain à avoir observé le champ magnétique, à avoir joué avec une boussole comme l'a dit Miohara, probablement en Chine. En tout cas, les premières traces qu'on a retrouvées datent de là. Petrus Peregrinus, Pierre de Maricourt, c'était intéressant. En fait, il faisait le siège, il était dans l'armée française, il faisait le siège d'une ville dans le sud de l'Italie, la ville de Lucera, et il avait tout le temps, puisqu'on assiège une ville, on attend pour réfléchir, et donc il s'est le premier à s'être amusé à couper un aimant en deux. Donc il n'a pas seulement étudié le champ magnétique terrestre, mais il a constaté que si on coupe un aimant en deux, on a deux aimants chacun avec un pôle nord et un pôle sud. Il a finalement fait une première démarche expérimentale, ça remonte quand même très loin, hein. 1269, c'est pas récent. Alors après, Miohara a fait l'honneur de citer un chercheur français. Il y a quand même aussi William Gilbert qui a publié en 1600, un petit peu avant, un livre fondateur dans l'histoire des sciences qui est le De Magnete. C'était le médecin de la reine Elisabeth Ière et c'était un polymathe, quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. Donc c'était un bon médecin, mais c'était aussi un bon scientifique et il a fait énormément d'expériences sur le champ magnétique, essayant de toujours tout démontrer par l'expérience. Et c'est le premier à avoir proposé que la Terre soit un gros aimant. Que le magnétisme de la Terre, ce soit celui d'un aimant dipôle, en fait, essentiellement en son centre.
Oui, justement, à partir de... Vous évoquez le gros aimant que serait cette planète Terre, Emmanuel Dormy. Comment le champ magnétique terrestre se définit-il? Quelles sont ses caractéristiques?
Alors, ça reste assez vrai, en fait, ce qu'a dit Gilbert. Le temps a passé, mais l'observation reste juste. C'est-à-dire qu'en première approximation, vu d'assez loin, le champ magnétique de la Terre, c'est celui d'un dipôle. C'est celui d'un aimant dipôle, c'est-à-dire un aimant qui aurait un pôle nord et un pôle sud. C'est d'ailleurs ce qui fait que la boussole nous indique le nord. Elle pointe, le pôle nord de la boussole pointe naturellement vers le pôle sud magnétique de la Terre. Donc, évidemment, il y a des questions de définition à avoir, mais une fois qu'on a bien défini les choses, la boussole nous indique le nord magnétique.
C'est ça, Miohara Mandea. L'intensité du champ magnétique terrestre varie, hein, dans l'espace, elle est maximale au pôle.
Tout à fait. Nous avons aujourd'hui des mesures qui datent depuis à peu près 200 ans, qui nous permettent de créer des modèles de champ magnétique. Ça veut dire d'avoir des images de ce champ magnétique à la surface du globe. Et en effet, on voit bien que le champ magnétique varie et que dans les zones polaires, l'intensité du champ magnétique, parce qu'il ne faut pas oublier, le champ magnétique, c'est un vecteur, donc on parle de son intensité. Donc l'intensité du champ magnétique est plus importante dans les régions polaires. Par contre, il y a une région qu'on définit comme l'anomalie d'Atlantique du Sud, qui se trouve, comme le nom le dit, dans l'Atlantique du Sud et un petit peu Amérique du Sud, où le champ magnétique, son intensité encore une fois, est environ un tiers de sa valeur nominale. C'est très important parce que c'est une zone qui on étudie en continu et que cette anomalie, on veut comprendre son évolution et on peut parler un peu plus de ça et les implications.
C'est-à-dire que c'est une anomalie d'intensité, c'est ça ?
De champ magnétique, tout à fait.
Alors justement, sur les sources des champs magnétiques terrestres, il y en a plusieurs, mais pour la source primaire qui crée le champ principal, il faut plonger au cœur de notre planète. Ça, l'intérieur de la Terre, on connaît ça assez bien grâce à la sismologie. De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve la croûte, puis le manteau, puis le noyau liquide en fer fondu, la graine, le terme utilisé pour parler du noyau solide, en fer solide, hein, donc, Emmanuel Dormy. C'est donc dans cette partie, au centre, qui contient du fer, qu'on peut envisager de trouver du magnétisme et l'origine justement du champ magnétique terrestre.
Alors on pense effectivement que l'origine du champ magnétique se situe à peu près 3000 km sous nos pieds. On commence 3000 km sous nos pieds, on a 3000 km de roche. Quand la Terre s'est formée, elle était très chaude et elle s'est différenciée, ce qu'on appelle une planète différenciée. C'est-à-dire que les matériaux les plus lourds sont allés au centre, sont tombés au centre, les plus légers ont flotté. Paradoxalement, le plus léger, c'était des roches. Donc on a un manteau essentiellement formé de silicate et puis au cœur de la planète, on a le fer qui est descendu parce qu'il était plus lourd. Il était très chaud, il y a une pression très très élevée à l'intérieur de la Terre, mais il y a aussi une température très élevée. Et donc ce fer est essentiellement fondu, c'est du fer liquide. Et puis quand on descend encore plus profondément, la pression continue à augmenter, la température aussi, mais la pression fait plus que compenser l'augmentation de température, c'est la pression qui gagne et le fer se solidifie et devient un cristal. Mais alors là, c'est là qu'arrive la grosse question de physique, c'est que si vous prenez un aimant et que vous le chauffez, il y a une température qu'on appelle la température de Curie, qui a été découverte par Pierre Curie, le mari de Marie Curie, pendant sa thèse de doctorat, et qui est une température au-delà de laquelle il n'y a plus de magnétisme permanent. Si vous chauffez un aimant, l'agitation thermique est telle qu'à un certain moment, on ne maintient plus d'aimantation permanente. Cette température, pour le fer, c'est de l'ordre du millier de degrés, et on est largement au-dessus à l'intérieur du noyau terrestre.
Toujours sur ces sources de champs magnétiques terrestres, Miwara Mandea, en fait ce champ magnétique terrestre, il est dû à des mouvements de convection à très grande échelle et très profondément à l'intérieur de notre planète.
La partie la plus importante du champ magnétique, comme Emmanuel le disait, c'est vraiment dû à ces mouvements dans le noyau de la Terre, environ 95% de ce qu'on mesure à la surface de la Terre. Mais il y a d'autres sources qui sont aussi intéressantes et qui nous intriguent. Une des sources, c'est ce qu'on appelle le magnétisme crustal ou lithosphérique. Ça veut dire que c'est lié aux roches qui portent une aimantation, qui sont dans la croûte terrestre. Comme Emmanuel disait, on peut avoir ces propriétés jusqu'à cette température dite de Curie. Mais après, à part ces sources qu'on les appelle internes, donc le champ magnétique du noyau et le champ magnétique dû au rocher aimanté dans la croûte, il y a aussi des sources externes. Et pour nous, les sources externes sont dues à des courants électriques qui circulent dans l'ionosphère, qui est une partie autour de la Terre, entre quelques 60 et 600 km, et puis encore plus loin, dans la magnétosphère. Donc dans une mesure de champ magnétique, nous avons toutes ces sources. Et en plus d'autres mini-sources, si je peux dire comme ça, parce que vous n'imaginez pas, mais il y a aussi un champ magnétique dû, par exemple, aux circulations des courants océaniques et à des marées. Pourquoi ? Parce que l'océan est quand même un bon conducteur qui bouge et donc qui crée un petit champ magnétique qu'on peut mesurer.
Emmanuel Dormy, sur ces différentes sources justement de champs magnétiques.
Alors moi, celle qui me passionne et qui m'intrigue le plus, je suis modélisateur, donc je m'intéresse à essayer d'arriver à comprendre le monde qui nous entoure avec des modèles mathématiques, avec des équations dont je cherche la solution. Celle qui me passionne la plus, c'est la source interne, la source primordiale, le champ principal de la Terre, qui est celui qui oriente la boussole. Les autres effets sont plus petits. Ils sont essentiels parce que si on veut décrire vraiment le magnétisme autour de la Terre, faire des cartes, utiliser sa mesure pour savoir où on est, par exemple, il faut les prendre en compte. Mais la question ouverte de sciences fondamentales, c'est comment la Terre, comme les autres planètes ou les étoiles, ou les galaxies, comme vous l'avez dit en introduction, génère son propre champ magnétique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment énigmatique.
Et alors, comment ?
Alors, la théorie qui est admise, étudiée, est proposée il y a un peu plus d'un siècle par un professeur à Cambridge, un Lucasian professeur à l'Université de Cambridge, qui s'appelle Joseph Larmor. qui a proposé un mécanisme qu'on appelle la dynamo auto-excitée. Alors ça paraît très cryptique, ça fait un peu peur quand on le dit comme ça, mais quand on dit le mot dynamo, on pense tout de suite à la dynamo comme on peut avoir sur une bicyclette. Vous prenez un aimant, vous le faites tourner dans un bobinage, et là vous créez un courant électrique. Parce que le mouvement associé à l'aimantation, ça crée un courant électrique. Et puis vous avez un autre mécanisme qui a été découvert par Hans Christian Ørsted, qui est que quand on fait passer un courant électrique dans un fil, eh bien ça crée également un champ magnétique. C'est-à-dire en faisant passer un courant électrique dans un fil, vous pouvez dévier l'aiguille d'une boussole. Et ce qu'a proposé Larmor, c'est qu'en fait, les deux effets peuvent se coupler. C'est-à-dire si la dynamo de vélo ne peut pas fonctionner à l'intérieur de la Terre, parce que si vous chauffez du fer, il cesse d'être aimanté, vous n'avez plus d'aimant. Vous avez besoin d'un mécanisme qui vous génère un aimant ou un courant électrique sans aimant permanent. En permanence, l'agitation thermique brise cette aimantation. Donc le champ qu'on mesure en surface, c'est en fait la signature des courants électriques qui parcourent l'intérieur de la planète. Et vous devez être capable de générer ces courants électriques sans aimantation permanente. Donc c'est une partie de l'énergie du mouvement du fluide, l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement du fluide, qui va être transférée dans une énergie électrique. Vous créez des courants électriques spontanément à l'intérieur d'un conducteur. Et ça, c'est très compliqué à décrire sérieusement.
La planète rocheuse, planète gazeuse, étoiles et même galaxies, hein, tous ces objets peuvent avoir un champ magnétique et ce sont donc les mêmes mécanismes qui génèrent ce champ magnétique. Dans tous les cas, hein, ce sont les mêmes équations qui gouvernent l'effet dynamo. Alors comment la Terre a-t-elle été capable de maintenir son champ magnétique durant des milliards d'années et surtout, quel a été son acte de naissance? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD. Natacha Triot.
En direct sur France Culture avec Mioara Mandéa et Emmanuel Dormy, nous parlons de magnétisme terrestre. On vient de parler des différentes sources de champs magnétiques sur Terre. On vient de voir que le champ magnétique terrestre est la conséquence des mouvements qui animent le noyau de métal liquide composé à près de 80% de fer. Emmanuel Dormy, la Terre est âgée de 4,5 milliards d'années. Selon une étude parue en 2010 dans Science, la Terre possédait déjà un champ magnétique il y a 3,45 milliards d'années, bien avant donc que le cœur solide de fer apparaisse. Quelle est l'hypothèse principale de la naissance du champ magnétique terrestre, alors que la graine, le noyau solide, n'était pas encore formé?
Alors, je vous ai expliqué que le principe d'une dynamo, le principe de la dynamo terrestre, c'est de faire passer une partie de l'énergie du fluide, de cette énergie de mouvement, dans de l'énergie électrique, des courants électriques. On sait que le courant électrique, c'est de l'énergie. C'est comme ça que fonctionnent les moteurs qu'on branche sur nos prises tous les jours. Le courant électrique, c'est de l'énergie. Cette énergie, elle vient du mouvement du fluide. Et la question, évidemment, c'est d'où vient l'énergie du fluide? Pourquoi le fluide est en mouvement? Et le fluide est en mouvement pour une raison qui est la même que celle de l'atmosphère qui nous entoure, c'est la différence de densité. Si le fluide est plus léger, il va avoir tendance à monter, s'il est plus lourd, il a tendance à descendre. C'est ce qu'on appelle la convection. Donc c'est ce qui génère tous les courants d'air qu'on peut avoir autour de nous, la formation des nuages, la dynamique de l'atmosphère, et c'est aussi ce qui engendre des mouvements à l'intérieur du noyau. La question que vous posez, qui est comment fait-on pour avoir un champ magnétique alors qu'il n'y a pas de graines solides, est reliée à la source d'énergie pour ces mouvements de convection. Pourquoi est-ce que le fluide a envie de se mettre en mouvement? Pourquoi est-ce qu'il est plus léger à la base du noyau et plus lourd à la surface du noyau? Et ça, c'est une question qui est un peu épineuse, parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont proposés. Il y a la convection thermique, donc simplement le fait que la Terre se refroidit, donc elle est plus froide à sa surface qu'en son cœur, et ça crée une différence de température entre l'intérieur du noyau et la surface du noyau, la frontière noyau-manteau, et ça va générer des mouvements de convection. Mais c'est pas complètement certain que ce soit suffisant, malheureusement, parce qu'on a du mal à connaître la conductivité thermique du noyau, c'est-à-dire à quel point le fer est capable, sans se mettre en mouvement, de transférer la chaleur de la base du noyau à la surface du noyau. Et certaines estimations de cette conductivité sont telles qu'on n'aurait pas besoin de mouvement pour transporter la chaleur. Donc c'est une catastrophe, parce que si on n'a pas besoin de mouvement pour transporter la chaleur, pourquoi le fluide est-il en mouvement? Heureusement, on a d'autres armes à proposer, en particulier le fait que le noyau n'est pas formé exclusivement de fer. Il est formé d'un alliage dans lequel il y a aussi des éléments plus légers que le fer. Et à mesure que le noyau se refroidit, il y a un phénomène qui s'appelle l'exsolution, qui fait que ces éléments plus légers ne peuvent pas rester dissous dans le fer et se mettent à se séparer du fer et montent parce qu'ils sont plus légers, et le fer, libéré de ces éléments, tombe parce qu'il est plus lourd. Et ça, c'est un mouvement de convection. Et donc ça règle un peu cette question de savoir pourquoi y avait-il un champ avant la formation de la graine.
Voilà, là vous venez de nous exposer très rapidement l'hypothèse de la convection thermique. Vous utilisiez en effet les phénomènes qu'on voit dans les airs, mais pour bien comprendre le phénomène de convection thermique, il y a aussi, on peut aussi se représenter ce qui se passe dans une casserole quand de l'eau chauffe, Emmanuel Dormy.
Tout à fait. En fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est une très belle analogie. Si vous prenez de l'eau dans une casserole, cette eau, si vous attendez suffisamment, elle est au repos. Et puis vous commencez à chauffer le bas de la casserole sans aller jusqu'à l'ébullition, juste vous chauffez. Et bien, vous constatez que l'eau se met en mouvement. C'est très beau, c'est les mouvements de convection dont on parlait tout à l'heure. Si vous mettez du vermicelle, vous pouvez les voir, le vermicelle s'aligner, faire des tourbillons, c'est magnifique à voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle une instabilité. C'est-à-dire qu'en théorie, l'eau parfaitement au repos pourrait rester au repos. Simplement, dans une expérience, l'eau n'est jamais parfaitement au repos. Il faudrait attendre des mois pour que l'eau soit parfaitement au repos avant d'allumer le feu, ce que personne ne fait. Et donc, personne ne se pose la question de touiller son eau avec une petite cuillère avant de faire chauffer des pâtes, parce que ça, il n'y a pas besoin. L'eau se met en mouvement spontanément. Et en fait, c'est la même question pour le champ magnétique. C'est-à-dire que là, on a un mécanisme qui crée des courants électriques sans champ magnétique. C'est ce qu'on appelle une instabilité. Et donc, vous avez besoin, en fait, que quelque chose commence à exciter un peu cette instabilité, quelque chose fasse démarrer l'instabilité. Il y a besoin de quelques courants électriques qui traînaient par là, ou un petit peu d'aimantation qui traînait. Et on se pose souvent la question, mais qui était là le premier? Qui était la poule qui était là? Est-ce qu'il y avait un petit peu d'aimantation qui traînait? Est-ce qu'il y avait un peu de courant électrique? En fait, c'est une fausse question, c'est la même question que la cuillère dans l'eau. C'est-à-dire que c'est une instabilité, et à partir du moment où le système est instable, l'instabilité croît et se développe, les courants électriques vont se mettre à croître et développer. L'analogie parfaite, c'est l'effet Larsen. Quand vous êtes dans un concert de rock, si l'amplificateur est mal réglé et un peu trop fort, si le micro s'approche du haut-parleur, il y a un son strident qui est amplifié, personne ne l'a émis, c'est simplement que ce son était instable et qu'une toute petite perturbation qui traîne, le silence n'est jamais parfait dans la pièce, surtout dans un concert, un petit bruit va être amplifié et croître jusqu'à devenir insoutenable.
La convection thermique, c'est l'hypothèse la plus acceptée pour expliquer la mise en mouvement initiale du fluide, mais bon, c'est pas tout à fait encore très clair, on cherche d'autres mécanismes, et parmi eux, Emmanuel Dormy, on peut aussi se pencher sur les mouvements de l'axe de la Terre, qui participent aussi à entretenir l'effet dynamo qu'on vient d'élucider ensemble il y a quelques instants.
Alors, plusieurs pistes ont effectivement été étudiées. Évidemment, la recherche, c'est très exploratoire, donc on ne se contente pas d'essayer une piste. Tant que ces choses-là ne sont pas réglées, on explore un peu toutes les solutions possibles pour apporter de l'énergie au fluide. Donc, je vous ai parlé de la convection thermique, je vous ai parlé de la convection qu'on appelle solutale, cette exsolution, le fait que c'est le fer n'est pas pur, mais contient aussi des éléments légers mélangés à lui. Il y a aussi le fait, effectivement, que l'axe de rotation de la Terre n'est pas constant dans l'espace, mais bouge. C'est ce qu'on appelle la précession. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement de l'axe de rotation dans le référentiel de la Terre, va produire des mouvements dans le noyau, des mouvements de précession qui, ça a été étudié, mais sont probablement trop faibles pour pouvoir être à la source du champ magnétique terrestre.
Miwara Mandea, sur justement comment les mouvements de l'axe de la Terre participent à entretenir l'effet dynamo, et qui explique aussi pourquoi la Terre a été capable de maintenir son champ magnétique pendant si longtemps.
Emmanuel a bien expliqué tous ces processus qui sont très compliqués pour avoir ces mouvements dans le noyau fluide de la Terre. Et il faut savoir que la rotation a vraiment un rôle très important dans l'existence de ces mouvements, et que nous avons la possibilité aussi d'avoir des informations sur la rotation de la Terre que nous, on connaît sur la longueur du jour, parce qu'on a des mesures vraiment très spécifiques sur les variations de longueur du jour qui nous aident aussi à comprendre ces mouvements. Donc, les mouvements du noyau, oui, le magnétisme, c'est très important, mais on a d'autres mesures qui peuvent nous apporter quelques informations sur ce qui se passe dans le noyau et puis à la limite noyau-manteau, qui est une limite très, très complexe.
On peut donc aussi remonter le temps et étudier le comportement passé de la géodynamo à travers les sédiments ou encore dans le basalte des coulées de lave volcaniques qui gardent une mémoire du champ magnétique au moment où le basalte s'est formé, Emmanuel Dormy.
Peut-être un point important juste sur ce que vient de dire Miwara, sur le fait qu'on utilise ces variations en fait de la longueur du jour aussi comme un moyen d'avoir des observations. C'est important de réaliser à quel point ces objets sont distants. On a toujours l'impression, quand on parle d'astrophysique, on parle de choses qui sont très très lointaines, mais l'intérieur de la Terre, c'est 3000 km sous nos pieds, on n'y est jamais allé, on n'a aucune mesure directe. Le forage le plus profond qu'on ait pu faire, c'était dans le nord-ouest de la Russie, le forage de Kola, c'est 12 km. 12 km par rapport à 3000 km. Donc on n'a que des mesures complètement indirectes. Donc tout ce qu'on sait de l'intérieur de la Terre, tout ce qu'on vient de vous expliquer, en fait, on le sait par des sources indirectes qui sont la longueur du jour, la variation de la longueur du jour, le mouvement de rotation de la Terre, différentes études, mais personne n'a jamais été voir directement.
Et en même temps, après. Oui, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, allez-y, Emmanuel Dormy.
Je vous en prie.
Alors après, vous étiez en train de dire.
Je rebondissais sur votre question, en fait, qui était les enregistrements, qui sont aussi des moyens indirects de connaître l'histoire de la Terre. C'est-à-dire, de la même façon qu'on n'a jamais été voir le noyau de la Terre sur place, on n'avait pas d'enregistrement du champ magnétique sur des périodes très longues. Les enregistrements qu'on a, ils remontent à quelques siècles. Depuis la navigation, on s'est posé des questions, on a enregistré le champ magnétique. Peut-être la première carte de la déclinaison du champ magnétique, c'est-à-dire l'angle que fait le champ magnétique avec le vrai axe de rotation de la Terre, le vrai nord, c'est Edmond Halley qui l'a fait en parcourant l'océan Atlantique sur un bateau qui s'appelait le Paramour, d'ailleurs, en français. Donc on a des mesures du champ magnétique direct, mais elles remontent pas très loin, elles remontent à quelques siècles. Et comme l'a dit Miohara, le champ magnétique évolue sur des temps beaucoup plus longs. Et donc toutes les mesures qu'on a qui remontent plus loin que ça sont des mesures indirectes qui sont liées au fait que dans certaines roches, dans certaines laves, dans certains sédiments, il y a des petites particules de magnétite qui s'orientent dans le champ magnétique au moment où le sédiment se met en place, au moment où la roche se forme, et puis qui restent bloquées. Parce qu'une fois qu'elle est refroidie, une fois que le sédiment est compacté ou une fois que la roche s'est refroidie, elles ne peuvent plus bouger. Et donc on peut arriver à extraire cet enregistrement que la nature a fait pour nous du champ à l'époque où la roche s'est formée ou où le sédiment s'est mis en place.
Miohara Mondéa.
Oui, en fait, je pense que ce qui est aussi très intéressant de souligner là, c'est que par le passé, le champ principal, donc le champ du noyau, s'est inversé plusieurs fois. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une polarité normale, mais le champ a été plusieurs fois inversé. Donc la dernière fois, c'était il y a 780 000 ans, après autour de 900 000 ans. Donc à des périodes d'inversion qui sont vraiment très très différentes. On peut penser à une moyenne d'environ 200 000 ans sur les inversions. Donc un petit calcul, dernière inversion 780 000 ans. Hop, et alors une inversion demain, on va voir. Non, plus intéressant, c'est de voir que le champ magnétique vraiment varie énormément sur toutes ces échelles de temps et que pour nous, c'est très important de l'étudier, soit indirectement, donc via les sédiments, via les rochers mantés qui ont la mémoire de champ magnétique du moment de leur formation ou directement depuis seulement quelques siècles.
Les pôles magnétiques nord et sud, comme vous dites, se sont inversés plus de 100 fois au cours des 50 dernières millions d'années. Emmanuel Dormy, on peut lire ou entendre régulièrement dans les médias, attention, le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser, ça va être la cata, mais ça c'est faux et c'est du sensationnalisme.
Je pense qu'il ne faut pas chercher à transformer une question qui est une question magnifique de science fondamentale en une question sociétale. C'est parfois tentant, mais il ne faut pas toujours le faire. Et là, on est vraiment sur une question qui est de comprendre le monde qui nous entoure, comprendre, c'est inadmissible d'imaginer qu'on vive sur Terre avec un champ magnétique et que l'espèce humaine ne comprenne pas pourquoi il y a un champ magnétique sur cette planète. Donc on réfléchit pour ces questions-là. Mais effectivement, on n'y réfléchit pas en se disant que c'est qu'il y a un réel danger sociétal. On a assez d'inquiétudes comme ça, pour d'autres raisons, que pour le champ magnétique. Donc effectivement, oui, le champ magnétique actuellement, on l'a dit, ne s'est pas inversé depuis longtemps, 800 000 ans à peu près, et on pourrait penser qu'une inversion va finir par arriver. Cela dit, il y a eu des périodes très très longues sans inversion, donc ce n'est pas non plus une catastrophe. Et surtout, il n'y a rien qui indique actuellement une inversion. Le champ magnétique décroît en intensité, mais il est plus élevé actuellement comme intensité que la valeur moyenne sur toute sa période de polarité. Donc c'est des fluctuations qui sont naturelles, c'est pas une décroissance. Et surtout, si vraiment une inversion devait arriver, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de devoir s'inquiéter. On parle de choses qui ont lieu sur des temps géologiques, de l'ordre du millier d'années. On parle pas de choses qui se passent en quelques années.
On a parlé quand même, on a évoqué la naissance du champ magnétique terrestre et sa fin, Emmanuel Dormy. Est-ce que le noyau liquide de la Terre finira-t-il par être englobé par la graine à force de se refroidir ?
Alors, la Terre se refroidit, oui, la Terre se refroidit. Et quand elle se refroidit, la graine croît. Mais elle croît très lentement, elle croît de l'ordre du millimètre par an. Donc à nouveau, ce n'est pas quelque chose sur lequel il doit y avoir une inquiétude. C'est l'évolution lente d'un objet. Tous ces objets naturels ont un cycle, une naissance, une vie, une mort. Les étoiles aussi en ont une. Les étoiles naissent, vivent et meurent, se transforment en supernova. La Terre se refroidit et son noyau se solidifie.
Et Miohara Mandéa, si tout le noyau liquide disparaît, ça veut dire qu'on perd notre champ magnétique.
Oui, on perd notre champ magnétique, mais encore une fois, il faut réfléchir sur les échelles de temps. Je pense que c'est très important. Oui, une inversion, on a eu pendant l'histoire de notre planète plusieurs, et on va avoir encore. Mais c'est pas quelque chose qui est pour demain ou pour après-demain. Donc toujours, il faut voir cette partie-là des échelles. Et si un jour le champ magnétique de la Terre va s'arrêter, ben on va devenir comme Mars, la planète rouge. N'a plus de champ du noyau parce que ça n'existe pas. Il y a toujours un champ croustal, qu'on le connaît très bien grâce à des mesures encore satellitaires, mais on voit bien qu'il y a une évolution qui est une évolution de notre planète, mais encore une fois, il faut voir toujours les échelles de temps.
Oui, voilà, Emmanuel Dormy, la planète Mars, qui est âgée aussi de 4,5 milliards d'années, a perdu son champ magnétique global de façon assez tôt dans son histoire.
Oui, donc sur Mars, on a ce qu'on appelle un champ crustal. On enregistre le champ, on voit la signature d'un champ passé qui a été enregistré par les roches de surface. Le champ crustal dont a parlé Miohara sur Terre, on l'a sur Mars, mais il n'y a pas de dynamo active sur Mars. Peut-être une remarque sur le fait que quand la graine sera de la taille du noyau, tout noyau sera solide, la dynamo va s'arrêter. C'est vrai, évidemment, mais très probablement, la dynamo s'arrêtera avant, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un volume suffisant de fluide conducteur en mouvement pour générer ces courants électriques. Et donc, il y a probablement pas besoin que l'ensemble du noyau soit refroidi et solide pour que le champ s'arrête.
Perdre son champ magnétique, ça signifie aussi perdre son atmosphère, Emmanuel Dormy.
Alors c'est plutôt une érosion en fait, c'est-à-dire qu'effectivement le champ magnétique dévie un flux de particules qui arrive du soleil, qui s'appelle le vent solaire. Une des signatures de ça, c'est des aurores boréales, qu'on voit que le vent solaire est dévié et peut rentrer en fait par le pôle, là où le champ magnétique lui permet de rentrer, là où il est vertical, c'est les aurores boréales. S'il n'y avait pas de champ magnétique, il est accepté que ce vent solaire en fait éroderait lentement l'atmosphère. Effectivement, Mars, Vénus ont des atmosphères plus érodées, plus fines, plus ténues que l'atmosphère terrestre.
Alors, quels sont les outils qui nous permettent de l'étudier et comment l'étudie-t-on en laboratoire? Restez à l'écoute. Magnétique de Earth, Wind and Fire en direct sur France Culture, car nous parlons de champs magnétiques terrestres. On en parle avec nos deux invités du jour, Miohara Mandéa, géophysicienne au CNAP, désormais détachée au CNES, Emmanuel Dormy, directeur de recherche CNRS au département de mathématiques et applications à l'ENS. On vient de voir que la boussole indique le nord magnétique et approximativement le nord géographique. C'est le premier instrument avec lequel on a pu mesurer ce champ magnétique terrestre, et c'est resté le seul jusque dans les années 50 environ, avec des variantes plus ou moins élaborées. En France, il n'y a qu'un seul observatoire magnétique, l'observatoire géomagnétique basé à Chambon-la-Forêt, créé en 1932. Miohara Mandéa, vous en avez été directrice pendant 12 ans. Comment fonctionne cet observatoire? Quelles sont les séries de mesures qui y sont faites?
Alors, l'Observatoire national de Chambon-la-Forêt, c'est un observatoire qui a pris le relais de deux autres endroits où nous avons mesuré le champ magnétique en France. C'était à partir de 1883 que le champ magnétique a été mesuré dans l'observatoire à Saint-Maur de Fossé, pas très loin de Paris, et puis en 1902, Valjoyeux. Pourquoi on a changé de place ? Parce que nous, on est intéressés à mesurer le champ magnétique terrestre. Point. Pas autre chose. Donc, il faut être loin de tout ce qui est perturbation anthropogénique. Donc, il y a un tram qui est construit à Valjoyeux, il faut bouger l'observatoire. Donc, depuis 1936, l'observatoire se trouve perdu dans la forêt d'Orléans. Donc, si vous êtes vous-même perdu dans la forêt d'Orléans, vous prenez votre boussole qui va vous conduire à l'observatoire. Donc, c'est un endroit vraiment superbe qui est situé au carrefour des huit routes et où on mesure depuis le champ magnétique. Tout au début, évidemment, les instruments, c'était des instruments un peu classiques qui s'est basé sur l'enregistrement en continu du champ magnétique sur du papier photographique. Et on avait ce qu'on appelle un magnétogramme qui était sorti chaque jour. Donc pendant 24 heures, on avait la variation du champ magnétique. Et en fait, aujourd'hui, on fait exactement la même chose, mais évidemment numérique avec des mesures chaque seconde. Mais ces instruments qui sont des variomètres vont nous donner quoi ? Les variations du champ magnétique. Parce que ce sont des instruments qui ont un drift, qui ont un biais. Donc, il faut quelque part les étalonner. Et ces étalonnages se font par des mesures deux fois par semaine en général. Ce qui est encore super intéressant, c'est que pour faire ces mesures nous-mêmes, comme la cabane dans laquelle on fait les mesures, tout doit être amagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le moindre morceau de ferraille, ni dans le bâtiment, ni sur nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, on veut mesurer que le champ magnétique terrestre, et pas le champ magnétique terrestre plus le nôtre. Donc aujourd'hui, on fait ces mesures-là et nous publions des valeurs secondes, minutes, horaires, journalières qui nous donnent les variations temporelles du champ magnétique dans un endroit.
Alors par exemple, une journée calme. À l'observatoire, qu'est-ce qu'on observe pour une journée calme ?
Pour une journée calme, ce qu'on peut voir par exemple, c'est ce qu'on appelle la variation diurne. Parce qu'il y a des variations dans l'ionosphère, les courants qui bougent dans l'ionosphère sont directement liés au soleil. Et donc on voit clairement une variation diurne qui est aussi différente aussi d'un observatoire à l'autre en fonction de latitude. Et après, à part les journées calmes, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des journées perturbées, mais très perturbées des fois.
Les orages magnétiques, par exemple.
Il y a les orages magnétiques qui arrivent, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a vraiment des variations importantes dans le vent solaire qui va interagir avec le champ magnétique terrestre et en quelques minutes, on voit des variations très brusques dans toutes les composantes du champ magnétique parce qu'on mesure évidemment l'intensité du champ magnétique, mais encore deux autres composantes, la déclinaison et l'inclinaison pour être plus clair, pour avoir une caractérisation du vecteur champ magnétique. Et donc, pendant les orages magnétiques, on voit ces variations très, très, très rapides dans toutes les composantes.
Bon, en ce moment, d'ailleurs, on est sur la partie maximale du cycle solaire, donc on a beaucoup d'orages magnétiques, ce qui pose quelques problèmes.
Oui, en effet, on a plus d'orages magnétiques pendant le maximum solaire, mais des fois, on a eu aussi des orages magnétiques importants pendant le minimum du cycle solaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment 100% lié au cycle solaire. J'aimerais bien noter ici que l'orage magnétique le plus important qu'on a connu, c'était en 1859, le phénomène Carignan qu'on nomme, et c'est à cette époque-là vraiment que on a eu très peu d'enregistrements, vous imaginez à l'époque, mais c'était l'orage magnétique le plus important que nous avons connu. Mais on a eu d'autres. Et peut-être un que je vais vous dire quand même, c'est de 1989, 13-14 mars, quand moitié du Québec est resté sans électricité. Donc vous imaginez mars, Québec, l'hiver, froid, sans électricité pendant 9 heures. C'est pas très facile. Et tout ça à cause de champs magnétiques et vent solaire.
Le champ magnétique terrestre dépend aussi de celui du Soleil, notre étoile qui exerce son influence au gré de ses cycles d'activité. Et on en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée au laboratoire de physique des plasmas à Sorbonne Université pour découvrir une nouvelle technique qui permet de mieux comprendre le magnétisme solaire et son impact sur la Terre.
Oui, avec Étienne Paria, chercheur CNRS, qui étudie l'activité du champ magnétique solaire. Et une des difficultés dans l'étude du magnétisme solaire provient du fait de n'avoir qu'un seul point de vue. Mais depuis 2020, la mission Solar Orbiter de l'ESA s'approche du Soleil et offre ainsi un angle différent. En synergie avec SDO de la NASA, un engin plus proche de la Terre, et en combinant les deux points de vue, on peut alors recomposer un panorama stéréoscopique du champ magnétique solaire avec une précision inégalée pour ainsi mieux prédire son influence sur Terre.
On a des instruments, surtout on développe des instruments qui vont être envoyés dans l'espace. En fait, il s'agit de mesurer dans tout l'espace interplanétaire, autour de différents objets, les propriétés de la matière, les propriétés des électrons, alors des ions et des électrons.
Ici, on étudie le plasma.
Donc, on étudie le plasma.
Qui est la matière la plus répandue dans
l'univers. Ok. Donc, par exemple, l'instrument qu'il développe ici, on va imposer un champ électrique et on va guider les particules au sein de notre instrument. L'objectif de les guider, ça va pouvoir de les sélectionner. Par exemple, on va mettre une certaine valeur du champ magnétique et du champ électrique pour que seulement certaines particules avec une certaine énergie, avec une certaine vitesse, puissent entrer dans les détecteurs. On les compte et puis on fait varier le champ électrique et le champ magnétique pour compter d'autres particules. Donc ça, ça nous permet de comprendre la composition du plasma autour de différentes planètes. On a en prévision d'envoyer des instruments autour de Mars, on en a envoyé dans le vent solaire, on en a envoyé pour étudier la magnétosphère de la Terre. Voilà. Donc ces instruments, ils sont faits ici. Et ils sont... ils sont répondus à beaucoup de questions. Ici, on a une salle blanche.
C'est là où on assemble les instruments.
Ici, c'est nos salles blanches là, qui nous permettent d'avoir la propreté nécessaire au développement de cette instrumentation spatiale. Et donc voilà, donc, ici, vous voyez, au milieu de Paris, on a des instruments qui nous permettent, on a des cuves, on a des moyens de test qui nous permettent de tester la qualité de nos instruments pour être au moins sûr que lorsqu'ils sont envoyés dans l'espace, ils nous apportent, on a la réponse attendue et qu'on puisse analyser les données. Le champ magnétique solaire, c'est fondamental. C'est la source de l'activité solaire, c'est le moteur de l'activité solaire. C'est vraiment le champ magnétique qui dicte tout. Si vous êtes sur le Soleil, imaginez que vous êtes un peu sur des autoroutes, il y a le champ magnétique qui vous donne la direction et vous n'avez pas le droit de vous en éloigner. C'est ça qui fait que lorsqu'on regarde le Soleil, on voit ces grandes boucles tracent le champ magnétique. Qui vont éventuellement être géoeffectives, qui vont impacter les activités humaines sur Terre.
Est-ce que vous pourriez expliquer les objectifs de l'étude qui a été publiée en octobre dernier concernant la restitution du champ magnétique solaire ?
Alors l'objectif de cette étude était un peu une preuve de concept que l'on pouvait mesurer la composante transverse du champ magnétique par les observations. En fait, lorsqu'on mesure le champ magnétique sur le Soleil, le champ magnétique, c'est un vecteur, c'est une flèche. Et jusqu'à présent, on pouvait voir que... on mesure très bien lorsque cette flèche est pointée vers nous ou pas. Mais par contre, si elle fait un angle, si par exemple elle est dans une direction perpendiculaire, on ne voyait pas si elle est à gauche ou à droite.
On ne voyait pas la deuxième composante.
Cette composante transverse. Et donc, dans cette étude, on a utilisé le fait que pour la première fois, on avait un instrument qui mesurait le champ magnétique, qui était en dehors de la ligne de visée Soleil-Terre. Jusqu'à présent, tous les instruments sur lesquels on mesurait le champ magnétique étaient soit sur Terre, soit sur des satellites à proximité de la Terre. Et pour la première fois, dans le cadre de la mission Solar Orbiter, il y a un instrument qui s'appelle FI, qui s'éloignait de la Terre et qui nous a permis d'avoir quelque part une vision stéréoscopique du champ magnétique et de mesurer quelque part cette composante transverse au champ magnétique. Donc c'était la première carte, la première fois qu'on a observé le champ transverse sur le champ magnétique du solaire. Donc il y a un premier instrument qui s'appelle un satellite, qui s'appelle Solar Dynamic Observatory, qui est un appareil de mesure du champ magnétique, enfin qui fait des cartes en fait, qui vont nous permettre d'obtenir le champ magnétique. Cet instrument s'appelle HMI, pour Heliospheric Magnetic Imager. Lui, c'est un instrument qui donne beaucoup de données, qui a été lancé en 2010, qui est très éprouvé, qui tourne autour de la Terre. Et puis, donc lui, il va faire une première carte du champ magnétique. Et on a un deuxième instrument, Solar Orbiter. Alors, le jour de l'étude, il formait un angle avec la direction solaire de 17 degrés. Donc, on avait deux points de vue écartés de 17 degrés. Alors, c'est un peu plus que l'écartement de nos yeux humains. Mais c'était particulièrement intéressant parce que il faisait une autre mesure sur le Soleil, et donc ils pointaient tous les deux dans la même direction sur le Soleil, et ils ont fait des images du Soleil, des images du champ magnétique solaire, et c'est grâce à elles, en les combinant, qu'on a pu montrer, qu'on a pu avoir complètement cette carte du vecteur du champ magnétique sur le Soleil. Donc ces cartes, on les présente souvent dans les images. Il y en a elles sont en général en niveau de gris, elles sont noir et blanc. On voit des concentrations du champ magnétique. On va regarder des taches solaires. Vous avez des lignes qui vont montrer les concentrations de champ magnétique. Si on regardait en même temps cette image en lumière blanche, on verrait des taches solaires.
Mais ça coïncide en fait.
Ça coïncide presque parfaitement, en fait. Les taches solaires, c'est des concentrations du champ magnétique. Alors, quand on parle de champ magnétique sur le Soleil, le champ magnétique n'est pas si intense que ça. Il est 10 fois plus fort qu'un magnète de frigo, hein,
En ordre de grandeur, en Tesla.
Alors, en Tesla, le champ magnétique sur le Soleil, c'est 0,1 Tesla. Et le magnète de votre frigo, ça va être 0,01. Donc, c'est 10 fois plus fort. Par contre, ce qui va changer, c'est le flux magnétique. Donc, c'est la quantité de champ magnétique multipliée par la surface. Le Soleil, une tache solaire, ça va être 10 puissance 15 Weber, qui est l'unité de mesure du flux magnétique, alors que votre magnète de frigo, ça va être 10 puissance moins 10. Vous voyez, vous avez 10 puissance 25 fois plus. C'est vraiment négligeable. Et c'est même par rapport à la Terre. Le champ magnétique de la Terre, le flux magnétique de la Terre, est de l'ordre de 10 puissance 10 Weber. Donc une tache solaire a déjà 100 000 fois plus de flux magnétique que notre Terre. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant d'énergie magnétique, et que c'est aussi important, que ça peut amener dans ces événements particulièrement violents, les phénomènes les plus violents du système solaire, que sont les éruptions solaires. Lors de certaines éruptions, le Soleil va éjecter d'immenses structures magnétisées, qu'on appelle les éjections de masse coronale, qui vont se propager dans l'espace interplanétaire, qui vont parfois arriver au niveau de la Terre, et elles vont avoir un champ magnétique si intense, ces éjections de masse coronale, qu'elles vont faire varier, elles vont arriver à modifier la structure et la dynamique du champ magnétique de la Terre, on va dire sur des échelles de quelques journées.
Merci Céline Lausanne pour votre reportage. Emmanuel Dormine, réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Déjà, tout s'enchaîne parfaitement parce qu'on vient de parler des éjections de masse coronale qui sont exactement les orages magnétiques dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a un lien parfait avec l'intervention de Miura il y a quelques instants. Et peut-être, moi, la chose qui me frappe le plus quand on entend parler du champ solaire, c'est quand même le champ d'une étoile. On a parlé d'un objet qui est 100 fois plus gros que la Terre et qui génère un champ magnétique interne par les mêmes mécanismes, par les mêmes, la manière de comprendre ces générations de champs magnétiques, c'est la même, c'est l'effet dynamo auto-excité. C'est assez surprenant, on a quand même une disparité d'échelle qui est très très forte. Mais le mot moi, qui m'a vraiment marqué dans l'intervention, c'est plusieurs fois entendu « image, regarder, on peut voir », et c'est vrai que c'est un peu triste sur Terre, on ne le voit pas ce champ magnétique terrestre, il est autour de nous, partout, il oriente la boussole, on ne peut pas le voir. Alors que sur le Soleil, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut le voir. Alors je vous déconseille fortement d'essayer de le voir à l'œil nu, c'est surtout pas quelque chose qu'il faut faire. Quand on dit voir le champ magnétique terrestre, le champ magnétique solaire, c'est qu'il émet en fait, en particulier dans une longueur d'onde qui est les rayons X, donc on ne voit pas à l'œil nu. Et vous avez des photos magnifiques, si vous cherchez rayons X, de la couronne solaire, qui est cette enveloppe autour du Soleil, qui est un plasma conducteur, qui est parcouru d'électrons, et ces électrons s'alignent, suivent les boucles du champ magnétique. Et donc on peut voir, visualiser sur des photos le champ magnétique qui se tord sous l'effet de ces courants électriques, se tord jusqu'à se reconnecter, et c'est ce qui crée ces éjections de masse coronale.
Miura Mondea.
Oui, Emmanuel parle de l'image, c'est très beau, mais nous, on a une image de champ magnétique terrestre à partir des modèles. En fait, on fait énormément de mesures. Pourquoi ? Pour sortir quand même des cartes qui nous montrent le champ magnétique à l'échelle globale ou à l'échelle régionale, le champ magnétique aujourd'hui et le champ magnétique d'hier. On peut anticiper un petit peu le champ magnétique de demain. Et ce qui est super intéressant, je pense, c'est qu'on a la chance d'avoir comme autour du Soleil, mais autour de Mars, autour de la Terre aussi, des satellites qui mesurent le champ magnétique. Ce sont ces satellites-là, et surtout la dernière mission de l'ESA, on a fêté 10 ans de résultats scientifiques de Swarm, une constellation. Donc la France est très impliquée, le CNES aussi très impliqué dans cette mission. Et grâce à ces 3 satellites, en fait, on mesure en continu depuis 10 ans le champ magnétique, et on a des cartes de variations spatiales et temporelles de champs magnétiques. Donc on a ces images qui sont produites à partir des mesures, après via des outils mathématiques qui nous permettent d'avoir la variation de champ magnétique, et on a nous aussi de belles cartes de champ magnétique et de belles images à vous montrer.
Et l'importance des mesures réalisées par les satellites, hein, il y a 20 ans, comme vous dites, hein, on avait seulement le réseau terrestre à disposition dans le cadre du programme international Intermagnet, et puis ensuite sont arrivés les satellites. On arrive, on approche de la fin de cette discussion. Emmanuel Dormy, un mot quand même pour ce qui est des expériences en laboratoire, hein. Comment génère-t-on un champ magnétique autour entretenu. Les équations qui régissent la géodynamo sont connues, mais comment passer de la théorie à la pratique? Pour ça, il faut se rendre au CEA Cadarache avec le dispositif Von Karman Sodium, ou VKS. Cette double expérience VKS en 2007, ça a été un tournant. Pourquoi justement est-il si difficile de reproduire expérimentalement un effet dynamo?
Alors, on l'a vu, l'effet dynamo se produit dans plusieurs planètes, dans la Terre, on peut se produire sur des planètes géantes gazeuses, 11 fois la taille de la Terre pour Jupiter, dans des étoiles, 100 fois la taille de la Terre, dans des galaxies, 1000 milliards de fois la taille de la Terre. Mais la difficulté, c'est d'arriver à le produire à petite échelle, parce qu'il faut arriver à injecter suffisamment d'énergie pour mettre vigoureusement un métal liquide en mouvement, pour qu'il ait suffisamment d'énergie cinétique, malgré la petite taille du volume considéré, pour en transférer une partie spontanément vers des courants électriques. On parle à nouveau de dynamo excité. Spontanément, le mouvement du fluide, une partie de cette énergie va être transformée en courant électrique. Et on sait que c'est possible si le métal est conducteur d'électricité. Et c'est pas facile du tout à réaliser. Alors, les deux premières expériences qui ont fonctionné n'étaient pas faites en France. Elles étaient faites en Lettonie et en Allemagne. Ces expériences de Riga et de Karlsruhe, respectivement, qui ont fonctionné en 2000, en même temps, et qui étaient en fait basées sur des écoulements de sodium liquide dans des tuyaux dont la forme avait été savamment calculée pour essayer de reproduire des écoulements dont on savait qu'ils pouvaient générer un champ magnétique. Ce qui a été complètement novateur avec l'expérience VKS qui était menée au CEA à Cadarache, comme vous l'avez dit, qui impliquait le CNRS, l'École normale supérieure de Paris, l'École normale supérieure de Lyon et le CEA, c'est que c'est la première fois qu'on génère expérimentalement un champ magnétique dans un écoulement libre. Le métal était libre de se promener comme il voulait dans un conteneur qui avait une forme cylindrique d'à peu près 60 cm de diamètre pour chacun des bords du cylindre et de 60 cm de hauteur pour le cylindre. Et donc en faisant tourner les disques des moteurs suffisamment vite, des moteurs très puissants, on parle de 300 kW de motorisation pour arriver à mettre le fluide en mouvement, de 35 tours par seconde pour la rotation des disques, on arrive à mettre le sodium liquide dans un mouvement suffisamment vigoureux pour que spontanément, des courants électriques se créent et un champ magnétique soit mesuré. Ça, c'était absolument révolutionnaire. Alors, l'autre résultat révolutionnaire de cette expérience, c'est que quand les deux disques qui sont au bord du cylindre ne tournaient pas à la même vitesse, mais à des vitesses différentes, des inversions de ce champ magnétique ont été observées. Donc, expérimentalement, on a pu reproduire en laboratoire des inversions de polarité comme on sait qu'elles ont lieu sur Terre.
Voilà, on voit que dans ces expériences au laboratoire, hein, qui travaillent donc à reproduire l'effet dynamo grâce à du métal liquide, la difficulté c'est de donner du mouvement au fluide. Miwara Mandea, hein, pour conclure, on voit bien que générer des champs magnétiques, étudier ces champs magnétiques, ça reste des problèmes fondamentaux pas encore entièrement résolus, ainsi qu'un thème de recherche très actif.
Tout à fait. En fait, comprendre la dynamo terrestre, comprendre les mouvements du noyau, comprendre ce qui se passe sous nos pieds à 3000 km profondeur, pose toujours quelques questions. Et c'est pour cela que nous essayons aujourd'hui de combiner l'observation, et vous avez compris que c'est l'observation magnétique, l'observation gravitationnelle, longueur du jour, avec les expériences dans le laboratoire, avec les simulations numériques, pour vraiment comprendre notre champ magnétique.
Merci, on est arrivé à la fin de cette discussion. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire de la boussole, je vous invite à écouter le podcast du camarade Antoine Beauchamp, l'épisode de Science Chrono, Boussole, la Chine en or qui brille. Très beau titre, c'est le moment de retrouver la chronique avec Science, avec Alexandra Delbo. Merci.
Comment fabriquer des matériaux plus résistants à partir d'os? C'est ce qu'on appelle la bio-inspiration ou le biomimétisme. S'inspirer du vivant pour construire des matériaux plus solides, moins coûteux financièrement et plus écologiques. Un exemple célèbre d'architecture copiant la nature s'avère être le joyau de notre capitale. La tour Eiffel est le fruit d'une bio-inspiration. Sa structure interne et son treillage s'inspirent de l'organisation de la tête d'un fémur humain. Autre exemple qui allie légèreté clarté et résistance, les os d'oiseaux, cette fois, vont servir d'inspiration pour la création d'une future base lunaire. Et finalement, si les os inspirent autant, c'est parce que leur structure interne et la distribution du tissu osseux sont adaptées à des contraintes mécaniques fortes. Alexandra Houssaï est chercheuse CNRS au laboratoire Mécadev du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et première autrice de cette étude parue dans Bioinspiration and Biomimetics.
Le squelette doit répondre à des contraintes qui lui sont imposées au cours de la vie des organismes. Et donc, pour ce faire, il va le faire de façon économe, parce qu'en fait, ça coûte à l'organisme de devoir entretenir un squelette. Il faut bien s'en rendre compte, c'est coûteux. Chaque mouvement qu'on fait, plus on est lourd, plus le mouvement est coûteux biologiquement pour l'organisme. Donc, l'architecture va s'adapter. Grosso modo, on va avoir dans l'os des tissus qui vont être déposés là où c'est nécessaire pour répondre aux contraintes mécaniques. Donc, l'os est économe et va mettre du matériau que là où on a un véritable besoin. De ce fait, pour la bioinspiration, c'est vraiment intéressant puisque ce qu'on veut faire souvent quand on crée des matériaux, ça va être avoir un matériau qui va assurer le maximum de résistance pour la quantité minimum de matériaux. Et en ça, ça en fait donc un bon support. Regardez comment est faite la structure osseuse chez différents organismes, selon les contraintes qu'ils subissent, et s'en inspirer pour créer des organisations, des architectures internes qui permettent d'utiliser moins de matériaux pour la construction.
L'intérieur de l'os est composé de travées osseuses qui vont s'orienter différemment en fonction de la contrainte, compression ou tension, comme un quadrillage qui permet de soutenir le poids tout en permettant une certaine mobilité. Et c'est particulièrement vrai pour la mégafaune. Des animaux géants disparus comme le diplodocus, le brachiosaure, le mammouth ou des espèces encore présentes comme l'éléphant ou le rhinocéros. Parce qu'il faut faire tenir des tonnes et des tonnes de viande debout sans que les os se rompent tout en leur permettant de les soulever et donc de marcher. L'enjeu de cette étude est donc d'explorer la structure d'os de la mégafaune et de déterminer lequel ou lesquels seraient les plus adaptés à la construction d'une colonne. Il a fallu d'abord passer les os des bras ou des jambes au scanner, modéliser les forces en jeu et regarder celles qui résistent le mieux à la compression. Premier résultat, les meilleurs candidats à la bioinspiration sont le radius, donc l'os du bras du rhinocéros blanc, et le tibia de l'éléphant.
En comparant nos os, on s'est rendu compte aussi qu'on avait des résultats bien moins bons qu'une colonne pleine. Pourquoi ? Parce que la forme des os, elle n'est pas du tout faite pour résister seulement à la compression. Un os, ça n'a pas du tout une forme de cylindre, ça a une forme très particulière et en fait, ça va casser au milieu parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour résister à plein de contraintes de nature différente, on bouge, etc. Donc, c'est pas du tout optimal pour juste la compression. Donc, on s'en est rendu compte, bien sûr, mais il fallait qu'on le teste. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une colonne bio-inspirée à partir de la structure du radius du rhinocéros blanc. Et donc, on a pris une colonne en cylindre, mais cette fois, au lieu de lui faire une structure pleine, homogène comme c'est d'habitude, juste remplie du même matériau, là, on lui a fait une structure hétérogène, donc avec trois matériaux inspirés de la structure qu'on avait chez le rhinocéros blanc. Et là, on a obtenu des meilleurs résultats pour la colonne bio-inspirée que pour la colonne de base, ce qui a donc permis de vraiment montrer qu'il y avait un fort potentiel à pouvoir s'inspirer des structures osseuses des organismes lourds pour créer des colonnes qui soient plus légères et plus résistantes.
La colonne bio-inspirée en 3D à partir du rhinocéros résiste mieux à la compression qu'une colonne classique. Et seulement celle inspirée du rhinocéros parce que le tibia de l'éléphant présentait des courbures trop particulières pour que sa structure soit transposable à une colonne. En revanche, rien n'empêche de s'inspirer des deux espèces pour avoir un matériau encore plus optimisé. Et c'est la suite de ces travaux. Faire un mix des deux, développer d'autres matériaux qui combinent les performances du radius du rhinocéros à celles du tibia de l'éléphant. Et la seconde poursuite de cette étude, c'est d'étudier plus en détail certaines espèces éteintes de la lignée des rhinocérotidés, parmi lesquelles un rhinocéros géant de la taille des plus grands mammouths, qui semble aussi très prometteur.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Céline Lausanne, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Hugo Renard. Vous pouvez nous écouter partout, en podcast à toute heure, sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.